6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et bonjour, bonjour Marguerite Caton.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Un peu d'agronomie ce matin.
Je m'intéresse beaucoup aux débats qui ont cours actuellement aussi bien à l'échelle mondiale qu'européenne à propos de la qualification et de la régulation de ce qu'on nomme couramment les nouveaux OGM. Les discussions sont à peu près aussi pacifiques qu'au temps des faucheurs de maïs transgéniques, des paysans amis chez des industriels scientistes se renvoient à la figure qui le principe de précaution, qui la marche du progrès. Mais avant de rentrer dans l'arène, il faut d'abord comprendre qu'appelle-t-on les nouveaux OGM? Pour le savoir, nous recevons Agnès Ricroc. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes enseignante chercheuse en génétique des plantes à AgroParisTech et Paris-Saclay, secrétaire de la section sciences de la vie de l'Académie d'agriculture de France. Avez-vous des liens d'intérêt avec l'industrie chimique ou l'industrie semencière ou toute partie qui pourrait créer des interférences ou vous influencer sur notre sujet?
Je n'ai aucun lien d'intérêt.
J'aimerais que l'on remonte le temps pour commencer et qu'on parle des vieux OGM. Comment les plantes étaient-elles transformées?
Alors, en 1983, on a découvert la transgénèse, ça donnait les plantes transgéniques, par des scientifiques belges et allemands, donc c'était en Europe. Les premières plantes transgéniques, elles ont été plantées en 1996. Donc le plus connu, c'est le maïs transgénique qui résiste à un insecte ou bien à un herbicide.
Et comment on l'a créé, ce maïs de Monsanto?
Alors là, on a introduit un gène qui venait d'une bactérie. Donc c'est ça la transgénèse, c'est que on met un gène qui peut venir d'une autre espèce, voire d'un autre règne, en l'occurrence une bactérie, dans un végétal. Donc ça c'est la transgénèse, on ajoute un gène.
Et maintenant, nos nouveaux OGM, à l'inverse, c'est une modification du génome de l'espèce elle-même, on n'en ajoute pas nécessairement un qui vient d'ailleurs. Je crois qu'il repose sur une découverte scientifique majeure qui a valu en 2020 le prix Nobel de chimie à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, CRISPR-Cas9. Comment fonctionnent ces cisogénétiques?
Alors, c'est un acronyme anglais qui permet, comme vous l'avez dit, de faire une modification in situ dans le génome, de façon chirurgicale, très spécifique. On va à un endroit précis du génome.
Et grâce à CRISPR.
Grâce à CRISPR et sa protéine qui s'appelle Cas9, elle a un numéro. Et ça va couper l'ADN, qui est un double brin, comme on sait, et modifier. En enlevant une lettre, en ajoutant une lettre, on peut même enlever un gène et le remplacer par un autre. Un gène de sensibilité, on le remplace par un gène de résistance à une maladie, par exemple.
Si j'ai bien compris, CRISPR sert spécialement, c'est de l'ARN.
Oui, c'est ça, c'est un petit ARN messager qui va guider la protéine pour aller à l'endroit précis du génome.
On dit que c'est comme un GPS.
C'est ça.
Voilà. Et après, Cas9, c'est la protéine, elle arrive et elle casse. Et une fois que le brin est cassé, il va forcément avoir tendance à se réparer. Et voilà. C'est là qu'on peut programmer un nouveau codage.
Voilà, c'est ça, une réparation. On appelle l'édition du génome.
Édition au sens anglais, en fait.
Oui, au sens révision, correction. Oui, parce que tu édites, ça veut dire corriger, en fait. Donc, c'est une correction. On dit aussi réécriture du génome. Voilà. Dans le langage courant, on dit édition du génome.
Et ça nécessite d'avoir une connaissance parfaite de ces génomes, de savoir quel gène gouverne quel caractère. Si on veut transformer une plante dans l'objectif, je ne sais pas, qu'elle soit plus rentable, plus productive, enfin qu'elle ait des meilleurs rendements, pardon.
Exactement. Il faut connaître la séquence du génome et après les gènes qui gouvernent les caractères.
Sur quel caractère porte la recherche actuellement?
Alors, en agronomie, on essaye d'avoir des plantes qui résistent au stress hydrique avec les sécheresses, des plantes qui résistent à des insectes ou à d'autres maladies, parce que avec le dérèglement climatique, on a des mouvements de ravageurs. Donc ça, c'est vraiment les grandes pistes de recherche, mais aussi pour les valeurs nutritionnelles. On peut donner un exemple, la tomate qui a été produite par des Japonais, qui est enrichie en GABA, qui est un acide aminé, un neurotransmetteur, et ça permet aux personnes qui souffrent d'hypertension, de stress ou des troubles du sommeil d'être en meilleure forme.
Mais ce type de transformation, ça nécessite, pour transformer le caractère, il suffit de transformer un gène ou en fait il faut une multitude d'opérations?
On peut modifier un gène quand le caractère est gouverné par un seul gène.
Ça arrive fréquemment?
Pour des résistances à certaines maladies, oui. Pour stimuler la production, comme un neurotransmetteur, on vient d'en parler, c'est tout à fait possible. Après, il y a des caractères qui sont beaucoup plus complexes. Et là, il y a évidemment un grand nombre d'équipes internationales qui travaillent dessus.
Cette technologie, je crois qu'elle est aussi utilisée, expérimentée peut-être au moins, sur les animaux.
Oui, alors sur les animaux aux États-Unis ou en Chine. Alors en Chine, ils travaillent beaucoup sur la fièvre porcine, qui est une maladie respiratoire. Ils le font aussi en collaboration avec des Britanniques. Aux États-Unis, à Davis, il y a des travaux qui portent sur la croissance musculaire des vaches pour qu'elles soient donc enrichies.
Des plus beaux steaks.
Voilà, tout à fait.
Et ça sert aussi, je crois, en Chine à transformer des animaux de telle sorte qu'on puisse en plus ensuite s'en servir pour des greffes sur les humains. Ça peut avoir une visée médicale, pas uniquement agronomique.
Oui, alors, ça s'appelle la xénogreffe. On essaye de modifier les gènes du porc pour qu'ils soient humanisés, pour pas qu'ils soient rejetés par le corps humain. Donc, on peut prélever des organes du porc et les transplanter chez l'humain, à condition qu'ils soient humanisés. Et ça, on peut le faire avec cet outil CRISPR-Cas.
Vous avez parlé de la Chine, des États-Unis. Plus globalement, à l'heure actuelle, quels sont les pays qui pratiquent couramment ces modifications génomiques? Est-ce qu'on se situe dans le champ de l'expérimentation? Est-ce que c'est déjà, on a parlé de la tomate japonaise, c'est déjà commercialisé?
Alors, tous les pays pratiquement pratiquent ça au laboratoire. D'autres vont plus loin, font des essais au champ ou dans les élevages, y compris en Afrique d'ailleurs, dans les pays en voie de développement. Nous, en Europe, on a accusé un certain retard, c'est certain. On avait une directive 2001-18 qui statuait sur les plantes transgéniques. Elle a été revue l'été dernier, le 5 juillet. Donc, la Commission européenne est en train de modifier cette directive pour permettre justement l'usage de ces nouvelles technologies génomiques qu'on appelle les NGT dans le jargon. Et récemment, il y a tout à fait un mois, le 7 février, les eurodéputés ont adopté cette proposition de nouvelles directives.
Mais pour l'instant, les États membres ne sont pas encore d'accord parce que... Je peux préciser rapidement pour les auditeurs que la question c'est est-ce que ces NGT sont des OGM ou sont en fait une manière d'accélérer des transformations qu'on pourrait trouver traditionnellement.
En tout cas, ce sont pas des plantes transgéniques au sens où on ajoute un gène. On fait une modification in situ et on imite la nature. On va un petit peu plus vite que la nature.
Et là, le débat
dans un contexte de dérèglement climatique et de souveraineté alimentaire, c'est quand même urgent de se doter d'un maximum d'outils. Et c'est un outil dans la boîte à outils.
Nous laisserons les auditeurs trancher. Merci beaucoup Agnès Ricroc. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en génétique des plantes à AgroParisTech et Paris-Saclay. Merci.
Voilà, je vous remercie.